Ouvrons le Saint-Livre, mes frères et sœurs, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21. Nous allons faire plusieurs lectures. Je vous encourage vivement à les noter pour vos cultes personnels, peut-être pour que Dieu vous remémore certaines choses qui vont être dites ce matin, qui sont certainement importantes. En tous les cas, pour ceux qui ont chanté vraiment le premier chant, « Montre-moi, Seigneur ». Quelle est ta volonté? Car je veux t'obéir. Dieu voit ceux qui chantent de tout leur cœur. Vous savez qu'on peut chanter d'une manière superficielle, c'est pas forcément conscient, bien sûr. Mais de la même manière qu'on peut chanter d'une manière très légère, on peut chanter d'une manière très profonde. Et on peut chanter des cantiques d'une profondeur presque. On se demande même s'il faut les chanter. Montre-moi, Seigneur, quelle est ta volonté. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, au verset 28, pose des questions. Vous savez, les questions du Seigneur, elles sont toutes pertinentes. Toutes. Matthieu 21, verset 28. Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, « va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repartit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis. » En vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car j'en ai venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Une deuxième lecture dans le prophète Habacuc, dans ces petits prophètes, pas toujours faciles à trouver. Dans ce livre, Habacuc, chapitre 3, verset 2, il y a des choses que Dieu dit et il dit des prières. Quand Dieu dit quelque chose, ça devrait nous pousser à faire une prière, à répondre, comme les questions que Dieu pose d'ailleurs. Habacuc, chapitre 3, verset 2. Vous l'avez trouvé ? C'est pas le plus facile, hein ? Mais il faut le lire. Habacuc, chapitre 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. C'est une prière qu'on peut faire. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. On va faire d'autres lectures. J'y tiens parce que, de toute façon, c'est le plus important. Alors, le plus important, c'est la lecture de la parole de Dieu. Dans Romains, au chapitre 15, le Saint-Esprit nous rappelle pourquoi ces choses ont été écrites. Tout ce qui a été écrit est intelligent, sage. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? Tout. J'en ai fois qui discutent avec Dieu pour savoir si Dieu aurait dû introduire le fait qu'il a arrêté le soleil du temps du Josué. Écoutez, tout ce qui est écrit est intelligent. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, ce matin, quelqu'un qui a le cœur ouvert, c'est imparable. Il recevra de la patience, de la consolation, et s'il le vit, il possédera de l'espérance. Vous comprendrez à la fin de la réunion. Dans Luc, au chapitre 9, vous savez, on a des moments difficiles. Vous le savez, ça, qu'on a des moments difficiles, ou je vous l'apprends ? Dans Luc, au chapitre 9, au verset 44 et 45, Il y a ça. Et pourtant, cette parole, elle est revenue souvent. Jésus l'a dite souvent, d'ailleurs comme à nous. Il nous a souvent dit des choses qu'on n'a pas comprises. Regardez, Luc 9, 44. « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Je vous assure, il leur avait déjà dit. « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, car elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. » Dans l'évangile de Marc, juste avant, au chapitre 10, c'est un texte étonnant parce qu'ils sont au centre de la volonté de Dieu. C'est beau d'être au centre de la volonté de Dieu, oui. Et pourtant, on peut être au centre de la volonté de Dieu et en difficulté. Marc chapitre 10, verset 32. Je peux vous dire qu'ils étaient vraiment au centre. Jésus était là, donc ça ne pouvait pas être en dehors de la volonté de Dieu. Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus devait aller faire à Jérusalem? Il devait aller mourir, pour toi et moi. Et Jésus allait devant eux. Voilà, ça c'est l'image d'un groupe de chrétiens au centre de la volonté de Dieu. Et pourtant, regarde la suite. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Regardez si c'est beau. Il les a grondés? Non. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Je le relis. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Et on peut dire, on pourrait écrire recommencer, je ne veux pas ajouter un iota, mais quand même. Et recommença, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans un livre, je ne sais pas si vous l'aimez ce livre, si, combien de fois vous l'avez lu, mais c'est le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2, on va lire le premier verset du chapitre 3. J'ai ordonné mes lectures de telle sorte que si vous les avez notées, vous pourrez chez vous peut-être percevoir quelque chose que Dieu a à vous dire. Jonas, chapitre 3, le Seigneur avait déjà dit des choses à Jonas, mais il va les lui redire. Jonas, chapitre 3, verset 1er. Vous avez tous lu le livre de Jonas? Ouais. Alors c'est bien, comme ça je pourrais abréger certaines choses. Jonas, chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire un naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Il leur répondit, « Je suis hébreu. » Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, ne nous charge pas du sang innocent, car toi Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas. Amen. Vous connaissez cette histoire? Oui, Dieu l'a écrite pour notre instruction. Beaucoup de gens pensent que c'est une légende. C'est pas bien. Jésus, le seul prophète auquel Jésus s'est identifié, c'est le prophète Jonas. Et croyez-moi donc, ce n'est pas une légende. Il s'est identifié à ce prophète parce que Jonas représente celui qui est mort, qui revient à la vie et qui apporte le salut au monde. C'est pour ça que Jonas s'est identifié à ce prophète. Cette histoire, elle est très profonde. Et je voudrais ce matin que Dieu puisse nous parler. Jérôme a commencé le culte avec ce texte de l'Ecclésiaste. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. C'est une parole profonde, bien entendu, qui nous montre qu'offrir un sacrifice, c'est bien. Quand on le fait de tout son cœur, c'est très bien. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. C'est d'écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Il n'a pas tout capté au début et il a dû lui reparler une deuxième fois. Heureusement que Dieu est patient, que si on n'a pas écouté la première ou la deuxième ou la vingtième ou la trentième, Dieu va patienter. La patience de Dieu est notre salut. Vous pouvez dire amen. Parce que personne, à part les gens d'une grande piété, personne ne serait là si la patience de Dieu n'existait pas. Personne. Nous ne pensons pas qu'il y a quelqu'un de meilleur d'ailleurs. Et cette histoire, elle est là parce que bien sûr, on sait que la colère de Dieu va venir sur Ninive. Ninive est une ville mauvaise, furieuse, méchante. Si vous regardez dans un bouquin comment vivaient les Ninivites, l'histoire des rois, c'est abominable. Donc, c'est évident, la colère de Dieu va tomber sur Ninive. Comme Habacuc avait entendu ce que Dieu allait faire. Et lui, de la même manière, dit « Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur la terre. Dans sa colère qui arrive, Dieu, malgré tout, use de compassion pour sauver les âmes pour qui nous prions. Parce qu'on prie pour des gens qui sont de véritables mulets, vous le savez, qui sont durs. C'est vrai ou c'est pas vrai? On prie pour des gens, mais le Seigneur, il peut leur parler sans que vous n'interveniez. Et le Seigneur, il a compassion des villes, même si la colère de Dieu vient. Et la colère de Dieu, elle vient. Et si quelqu'un ne le croit pas, c'est que vous n'avez jamais lu la Bible. La colère de Dieu, elle vient, mais la miséricorde de Dieu est plus grande que sa colère. La compassion de Dieu est plus grande. Habacuc le connaissait, et les autres prophètes, certains plus que d'autres, connaissaient vraiment la compassion de Dieu à cause de leur communion avec Dieu. Donc, Jonas a été transformé. Je pense que s'il avait dû écrire autre chose, je pense qu'on aurait certainement vu de la transformation. Vous croyez que Dieu est capable de nous transformer par des expériences? Quoique, il y a des gens qui font d'énormes progrès par les mêmes expériences et d'autres qui font d'énormes régressions. Oui ou non? Ça dépend des choix, comment nous acceptons ou pas l'épreuve que nous traversons, même si ce n'est pas évident. Parce que Jonas représente les chrétiens ou les pasteurs qui ne se connaissent pas bien, qui ne connaissent pas la miséricorde de Dieu. Et pourtant, Dieu va nous utiliser. Parce que Dieu ne regarde pas nos qualités, Dieu regarde au cœur. Et il y a des gens qui ne sont pas bien, mais voilà, les épreuves d'une épreuve, une situation, et ils s'améliorent. Vous n'avez jamais vu ça? On se dit, tiens, pourquoi Seigneur, tu as choisi tel pasteur, il ne tient pas trop debout. Et puis vous le voyez 10 ans après, vous dites, eh bien, je comprends. Et puis il y a des gens qui paraissaient très très pieux, qui paraissaient très très bien, qui s'exprimaient très bien, qui avaient des capacités en veux-tu en voilà. Vous les voyez 10 ans après et vous dites, ah ben j'ai compris, pourquoi Dieu ne l'a pas choisi. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, qu'en est-il pour nous? Parce que le problème, c'est bien sûr, c'est d'étudier cette histoire pour comprendre comment Dieu a la compassion avant la colère. De la même manière qu'une parole a été adressée à Jonas, Nous pourrions quand même en toute honnêteté dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Même si tu viens pour la 3e fois, oui, Dieu a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Vous connaissez l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises. Si le Seigneur ne vous parle pas, ou si vous ne laissez pas Dieu vous parler, ou si ça vous est égal, vous êtes mal. Un chrétien, il souhaite que Dieu lui parle, oui ou non? Un chrétien, il a besoin que Dieu lui parle. Il a besoin de dire, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. J'ai besoin d'une parole, celle qu'il voudra, mais j'ai besoin d'une parole. Le chrétien, il s'en fiche pas mal, il vient à l'église, je l'ai déjà dit 100 fois. Il y a des chrétiens qui s'imaginent parce qu'ils vont à l'église et parce qu'ils prennent le pain et le vin, ils sont du côté du Seigneur. C'est pas comme ça que ça doit marcher. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, que Dieu fasse en sorte que ce matin, la parole de l'Éternel te soit adressée. Et qu'il y ait un mot, une parole, ou même en dehors des propos que je pourrais tenir, une intuition spirituelle par laquelle Dieu va te parler et te montrer quelque chose. Moi, pendant le moment de la louange, pendant le moment des chants, moi je peux dire que je me suis fait un bien formidable. Je n'avais même pas besoin de la prédication. On aurait pu terminer le culte après les offrandes. Oui ou non? Moi, je pense que oui. Mais enfin bon, autant prendre tout le repas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Parce que Dieu a des choses à te dire. Peut-être que toi, tu en as des choses à lui dire, mais lui aussi, il a des choses à te dire. C'est pour ça que la prière ne doit pas être un monologue. Quand il est dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, il n'est pas dit qu'il parle à Dieu. La prière, ce n'est pas que parler à Dieu. La prière, c'est aussi écouter. Je suis dans la souffrance, ça serait peut-être intelligent que je m'arrête après avoir dit tout ce que j'ai à lui dire, parce qu'on a quand même des besoins. Je peux lui parler 5 minutes, 1 heure, je ne sais pas, le temps que ça doit sortir. Mais peut-être que je souffre, que Dieu a quelque chose à me dire avant que je demande de l'onction d'huile. Avant que je m'engage dans quoi que ce soit. Donc Dieu demande quelque chose à Jonas, Dieu lui demande quelque chose de très difficile, ne jugeons pas Jonas. Dieu lui demande d'aller prêcher dans un pays ennemi. Vous savez, quand je préparais cette prédication, je pensais à M. Bordeneuve. Vous savez quand M. Bordeneuve il s'en va au Niger? Laissez-moi vous dire qu'au Niger, ils n'aiment pas tous les chrétiens. Et chaque fois qu'il s'en va, M. Bordeneuve, Je crois que c'est un gros acte de foi qu'il fait. Imaginez-vous que Dieu nous demande d'aller prêcher en Corée du Nord. J'accepterais que quelqu'un puisse faire une petite croisière en Méditerranée avant d'obéir. Oui ou non ? Ne le jugeons pas. Il y a des choses que nous avons besoin de traverser avant de les faire. Et c'est là que nous voyons l'amour de Dieu pour Ninive, l'amour de Dieu pour Jonas, et l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour dont Jérôme nous a si bien rappelé ce matin par les cantiques, l'amour de Dieu fera que nous n'aurons pas de mal à vivre ce dernier cantique, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est évident. Donc Dieu demande à Jonas de partir dans un pays étranger, et bien sûr, il n'est pas tout à fait disposé. Je ne sais pas ce que Dieu va vous demander, ce que Dieu va te demander. Il ne va pas peut-être te demander d'aller prêcher en Corée. Mais je suis convaincu que Dieu a quelque chose à te dire. J'espère que vous ne faites pas partie de ces croyants que j'ai pu voir dans le passé, qui quand le pasteur prêchait, il y en avait un qui tapait, et c'est pour toi, écoute bien. Hein, c'est pour toi, écoute, ne dors pas. C'est pour toi. Ou alors, ah, s'il y avait mon mari, ça lui ferait du bien. Écoutez, je crois que Dieu peut nous amener à penser que ce qui est dit est pour quelqu'un d'autre. D'accord. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce que tu fais ce que Dieu est en train de te dire? Est-ce que tu obéis? Est-ce que nous obéissons à toutes les occasions que nous avons de le servir? Oui ou non? Eh oui. Alors Dieu, tout-puissant, souverain, infiniment puissant, vous le croyez, qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre. Tout, mes frères et sœurs, cette histoire, elle est là pour que nous le comprenions bien. Que Dieu, dans sa puissance, dans sa justice et dans son amour, contrôle tout. Que son nom soit béni. Tout. Et je peux vous dire que si souvent nous n'avons pas eu d'accident, je donne un exemple. C'est parce que Dieu a contrôlé tout. Vous le croyez? Et on pourrait multiplier les exemples. D'un côté, Dieu contrôle tout et il est capable de provoquer, vous avez vu, des situations terribles pour nous amener là où il veut nous amener. Parce que n'oubliez pas que le plan de Dieu, il est intelligent. Dieu sait qui il veut sauver dans cette ville. Que ça serait bien si Dieu voulait sauver, enfin Dieu veut la sauver, que toute la ville de Toulouse se tourne vers Dieu. Puisque toute la ville de Ninive s'est tournée vers Dieu. Oui ou non? On ne peut pas savoir, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Quoique le jugement de Dieu, j'en profite, 100 ans après, le jugement a été reporté de 100 ans. 100 ans après, si vous lisez le livre de Nahum, vous allez voir que ça a chauffé à Ninive. Mais enfin, toute une génération, plusieurs même, ont été épargnées parce que la miséricorde de Dieu était là. Et je le répète, si le Seigneur n'est pas encore revenu nous chercher, c'est parce que Dieu est miséricordieux et que dans sa colère qui approche, nous pouvons lui dire, Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Vous pouvez le faire, vous le faites de temps en temps? Mais vous pouvez le faire. Alors la désobéissance, bien sûr, est accentuée. Écoutez bien, parce qu'on va pas, on n'est pas là pour critiquer Jonas. Jonas, il va fuir. Mais je veux vous poser une question. Écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. Écoutez bien. Parce que c'est vrai que la désobéissance de Jonas est accentuée par le fait qu'il fuit. Mais s'il était resté chez lui, c'était pareil. Est-ce qu'on est obligé de fuir pour désobéir? Parce que peut-être que certains se mettent dans la tête qu'ils ne désobéissent pas trop. Parce qu'ils ne fuient pas. La fuite, c'est terrible, la fuite. Parce que ça prouve qu'il y a en plus une réaction de s'éloigner de Dieu, loin de la face de l'Éternel. Ils ne voulaient pas. que Dieu lui parle. Il ne supportait pas le fait que déjà Dieu veuille sauver cette ville d'étrangers. Vous voyez, c'était le premier missionnaire en fin de compte. Et peut-être que nous, je ne sais pas, nous avons des blocages. Si Dieu nous demandait d'aller dans un pays musulman, est-ce que Dieu aime les musulmans ? J'en profite pour vous dire, ne priez pas contre les musulmans. Des fois, j'ai entendu une prière l'autre jour, j'ai failli me lever. On ne prie pas contre les musulmans, on prie pour les musulmans. C'est important, bon, vous allez me dire c'est un détail, mais ça ne fait rien. Donc Dieu peut nous interpeller ce matin, il nous dit, mais tu n'as pas besoin de fuir pour désobéir. Le seul fait d'être tiède, vous connaissez les reproches sévères du Seigneur Jésus à l'église des Laodicéens. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Est-ce que ce n'est pas grave d'être tiède ? Ben si. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Pourquoi ? Ben parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Alors après, il est obligé de provoquer des catastrophes. Autant bien pour notre bien que pour, bien sûr, le salut des pécheurs. Et il faut pas. Vous savez, nous, on est léger avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le Seigneur aime les pécheurs, le Seigneur aime les pécheurs, on est tous pécheurs. Quand je vois comment Dieu parle des pécheurs et des tièdes dans la Bible, je peux vous assurer qu'il y a quand même de quoi s'interroger sur la façon dont Dieu voit le pécheur. Même s'il l'aime. La passivité, c'est terrible dans le royaume de Dieu. Il y a plein de gens qui sont passifs. Ça va être terrible pour les paresseux. Moi, je me fais un souci, vous ne pouvez pas vous imaginer, pour les chrétiens qui se trompent. Jonas, c'est un pasteur, ça a été un héros, il a terminé un héros, d'accord. Mais quand il dit « je crains Dieu », je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Parce que quand Dieu va lui dire « est-ce que tu fais bien de t'irriter contre ce ricin ?» Le ricin, vous savez que Dieu avait fait pousser plus loin, et il dit « oui ». Oui, je fais bien de m'irriter. Je peux vous dire qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous faites attention avant de répondre au Seigneur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas dans quel état spirituel ils sont. Ils ne le savent pas. Parce que peut-être ils ne fuient pas. Mais ils désobéissent. Le problème, c'est que c'est révélateur. Il y a plusieurs vérités à sortir de là-dedans. C'est que quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle quelqu'un. Dieu dit pas, Jonas, il ne veut pas, allez, il regarde sur son ordinateur, qui c'est ? Ah, son fils, allez hop, c'est le fils qui va prendre la suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle. Et Dieu va l'utiliser. Et si Dieu t'appelle ce matin, peut-être que tu es un jeune homme, peut-être que tu es une personne âgée, peut-être que tu es une jeune épouse, une jeune fille, une femme, j'en sais rien. Peut-être que tu as plein de gosses ou que tu n'en as pas, ça n'a rien à voir. Nous, on est là, bon, moi j'arrive à la retraite, bon, je vais me faire un peu moins. C'est comme ça que ça marche ? Non. C'est sérieux l'appel de Dieu. C'est merveilleux, c'est une grâce. Est-ce que c'est une grâce d'être ici ce matin ? C'est une grâce. C'est une grâce d'être ici. Vous préféreriez être dans le plus bel hôtel de Toulouse ou ici ce matin ? Tout gratuit à l'hôtel. Tout. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Allez, dimanche prochain, je vous offre dans le plus bel hôtel de Toulouse, le plus beau petit déjeuner. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est sûr ? Il n'y en a qui n'ont pas répondu. C'est terrible d'être inutile. Et mes frères et sœurs, nous sommes sous le regard de Dieu. Vous êtes d'accord ? On a prié, notre frère Jérôme l'a répété. On est là pour écouter, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as à me dire ? Montre-moi ! Montre-moi où j'en suis ! Est-ce que vous aimeriez, quand vous allez passer devant Dieu, que Dieu, imaginez, je ne sais pas comment ça se passera, mais c'est à peu près comme ça. Vous imaginez que Dieu dise à quelqu'un, tu sais, je voulais que tu sois pasteur, et tu as refusé l'appel. Vous croyez que ça risque de se présenter, ça ? Je voulais que tu sois une servante, une diaconesse dans l'église de Toulouse, et tu ne l'as pas été. Je voulais que tu sois cette femme qui soutienne ton mari. Et tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne suis pas capable. Je suis incapable. Mais je sais que le Seigneur va nous dire ce qu'il a à nous dire. Et heureusement que Dieu contrôle les éléments pour nous ramener au port. Parce que le problème, c'est que quand on est tiède, quand on est froid, quand on est paresseux, c'est la preuve que la communion avec Dieu s'est distancée. Et le problème, ça s'aggrave. Et pourquoi il y a tant de rétrogrades? Parce que tout d'un coup, ils ont choisi d'abandonner Dieu? Non, moi, j'y crois pas. Les pots de banane, j'y crois pas trop. Je pense que ça a été insidieux. Et petit à petit, ils ont perdu la foi. Et ils ont perdu la conscience. Et alors que dans nos églises en France, il devrait y avoir des milliers de gens en plus assis dans les bancs comme vous ce matin, des milliers sont justement ailleurs et sont en train de s'attirer le jugement. Heureusement que Dieu est plein de compassion. Et moi je crois que Dieu a le pouvoir. S'il a sauvé les Ninivites, il peut sauver pas mal de Toulousains. Et beaucoup de nos enfants, même s'ils sont durs. Les jugements, c'est sérieux. On pourrait introduire dans cette prédication la pensée du jugement de ceux qui n'ont rien préparé. On va le faire. J'ai quelques versets, on va en prendre. Dans Luc au chapitre 12, ce n'est pas quand même le plus important de la prédication. Le plus important, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais quand même, dans Luc au chapitre 12, Jésus parle des chrétiens qui ne vont pas bien. Qui disent oui, 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 et puis qui ne font pas. Comme on l'a lu en introduction de ces deux serviteurs. Il y a une fidélité, un renoncement, une abnégation qui fait qu'on va pouvoir servir le Seigneur. Luc chapitre 12, voyez, c'est la parabole des deux serviteurs, on avait tout à l'heure presque la même. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Verset 41 de Luc 12. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous y êtes? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il y a plein de gens qui ont décroché, qui ne font plus rien. Après, il y a les récompenses. Mais regardez, quand même, ça fait réfléchir. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le pasteur, monsieur Untel. C'est Jésus. Verset 46, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les infidèles. C'est terrible, c'est l'image du jugement. Tordez-le comme vous voulez, c'est l'image du jugement. Verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais il y a des gens qui connaissent, celui qui a connu n'a rien préparé. Et pouvez-vous se préparer? N'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous voyez, et celui qui n'a pas connu, il y a des gens qui ne connaissent rien, ils ne sont jamais dans des églises. Vous voyez, c'est la preuve que le jugement est proportionnel. Vous voyez, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Donc on voit bien quand même qu'il y a des conséquences terribles à être infidèle, à être paresseux. J'ai rien préparé, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, et la femme, et les gosses, j'ai pas le temps de servir Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez, soyons sérieux. Ce que Dieu veut que je fasse, c'est clair, j'ai le temps de le faire. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, honnêtement, peut se lever et dire, ce que Dieu me demande, je n'ai pas le temps de le faire. Si vous le faites, franchement, ça ne va pas du tout. Ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Parce que ça ne vient pas de Dieu, je crois moi, si tu dis « j'ai pas le temps de servir Dieu », c'est pas vrai. Même si tu as 10 gosses, il y a quelqu'un qui a 10 gosses ici. Madame Wesley, vous connaissez le revivaliste Wesley? Je crois qu'elle avait combien? 11 ou 17? Elle avait 11 ou 17 gosses. Et tous les jours, elle entrait dans sa chambre, elle avait un écriteau, et elle avait fermé pour une heure. Fermé pour mon Seigneur, un truc comme ça. Et pendant une heure, tous les jours, elle priait, et deux de ses fils sont devenus des hommes de Dieu hors pair. Elle faisait ce que Dieu lui demandait. Et ce n'est pas à moi de vous dire, faites ceci, faites cela, et qu'est-ce que tu fais dans l'église? Ah, tu fais rien, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est le monde, ça, c'est l'homme. Ça doit venir de l'esprit, parce que quand je suis en communion avec Dieu, j'ai à cœur, moi, je vous assure, mardi, j'avais fini de préparer la prédication. J'étais dans mon bureau en train de prier. Vous savez, j'aurais préféré aller boire le café chez Madame Untel ou chez Madame Dupont. Mais je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Je le sais. Et il m'a fallu moi aussi avoir ma petite tempête pour faire ce que Dieu me demande, malgré le fait que j'étais pasteur. Et à un moment donné, il faut être sûr que je fais ce que Dieu me demande. Parce que les jugements seront sévères. Même si l'amour de Dieu est immense, même si ses compassions sont immenses, le jugement, il viendra quand même. La condamnation viendra pour les perdus. Et le jugement viendra pour les chrétiens, c'est-à-dire le fait qu'il faudra rendre compte. Vous avez vu dans cette histoire, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est un truc de fou. La tempête se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur descend dans la cale et il s'endort. Et il s'endort profondément, verset 5. Il y a des gens qui disent, je me souviens, ma mère, elle disait souvent, on ne peut pas dormir si on n'a pas la conscience tranquille. Eh bien, vous voyez, elle n'avait pas lu Jonas. Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la conscience tranquille et ils dorment bien. Mais non, mais c'est pathétique. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, mais vraiment honnêtes. Combien de païens prient leur Dieu? Parce que vous avez vu, les marins, ils ont peur, c'est clair, ils ont peur. La tempête se lève, ils commencent à s'affoler, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils prient leur Dieu, incapable bien sûr leur Dieu de répondre, il n'y en a pas. Mais ils prient leur Dieu. Et celui qui connaît le véritable Dieu, il dort. Mes frères et sœurs, je pense que là, il y a de quoi réfléchir. Combien de païens, de religieux, prient et combien de chrétiens dorment? Vous trouvez que j'exagère? Combien de chrétiens dorment profondément? Et il y a des païens qui prient, ils sont là, ils voient que la tempête s'agite, que le jugement arrive. Il y en a même qui disent, oh, c'est la fin du monde pour bientôt. On l'entend, ça de plus en plus. Les gens, ils ont peur, ils ont raison. Et ils ont raison. Les gens qui n'ont pas peur, ils sont fous. Et lui, il dort. Il dort, alors ils font ce qu'ils peuvent. Plus tard, il va prier. Il va prier un peu plus tard. C'est vrai, il va être dans un autre bateau, c'est vrai. Et il va prier. Il va prier de bon cœur d'ailleurs. Il va prier. Que Dieu ne nous oblige pas à changer de bateau ou de passer dans un sous-marin pour être obligé de prier. Et l'image est là. Elle est là, l'image. Il faut l'accepter. Le monde s'enferme de plus en plus dans la misère. Vous avez vu notre monde? Ça fait pitié vraiment. Les gens ont peur. Ils prient leur Dieu. Écoutez-moi bien, ce sont des abominations incapables de les sauver. Et que les chrétiens dorment, que de réunions de prière. Moi, quand j'apprends que l'été, les églises annulent les réunions de prière, vous croyez que c'est le moment d'abandonner les réunions de prière? Qu'est-ce que vous faites à l'heure de la prière? Qu'est-ce que vous faites du bon combat de la foi? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur, de ce combat que Dieu te demande de mener? Est-ce que c'est écrit que nous avons à lutter? Nous avons le repos, c'est clair, ça c'est facile à accepter. Mais est-ce que nous avons à lutter? Et est-ce que nous avons toutes les armes pour lutter? C'est ce que nous avons partagé mardi. Si Dieu nous demande de combattre et si le combat peut devenir un beau combat, c'est parce que Dieu nous a donné tout l'équipement nécessaire. Si vous connaissez Dieu, il ne va pas vous envoyer au combat sans les armes nécessaires. Bien sûr, si vous partez sur un champ de bataille en caleçon, vous allez vraiment avoir peur. Et c'est ça qui se passe, c'est que les gens, quand vous dites « Oh, ce combat, j'en ai marre, ce combat, c'est un mauvais combat », mais parce que je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. En tant que pasteur, je sais de quoi je parle, vous inquiétez pas. Et c'est parce qu'on n'est pas armé. On ne prend pas le temps de prendre, comme Jérôme le rappelait tout à l'heure pour la scène, prenez, mangez, tout ça, souvent c'est virtuel. Non, ça doit être spirituel. Oui, je me nourris. Ce matin, je veux me nourrir. Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Oui, le monde va mal, le monde est terrifié, la tempête est là. La guerre nucléaire, on parle de la guerre nucléaire de plus en plus. Les gens, ils ont peur de tout. Qu'est-ce que font les marins? Les marins, vous avez vu, ils réveillent Jonas. Ils réveillent Jonas, ils sont étonnés. Ils ne le connaissent pas. Ils veulent des explications. Et pourquoi donc? Pourquoi tu dors? Qu'est-ce que tu as à dormir? Et pourquoi tu ne pries pas? Vous avez vu? Hein? Dis-nous qui attire ce malin. Mais viens nous prier. D'où viens-tu? D'où vient ce chrétien? Je pense que le monde a le droit, alors ce que je vais dire, comprenez-le bien, que le monde a le droit d'être en colère contre l'Église. Vous me suivez? Et le monde a le droit de poser des questions. Oui, il pose des questions au pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Et le monde, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien. Le monde a besoin de réponses. Et vous avez vu le débat au niveau religieux, je parle toutes dénominations confondues, écoutez bien, c'est catastrophique. Le monde a besoin que l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église, mais il y a tellement de confusion, donne des réponses valables. Et ce qu'ils entendent, est-ce que les femmes peuvent être prêtres ou pasteurs? Est-ce que l'œcuménisme n'est-il pas la solution? Alors il y a des débats, en veux-tu, en voici, sur le communisme, sur la théologie libérale. Moi je reçois régulièrement des flyers avec des infos sur tout un tas de séminaires. Est-ce qu'il faut pas quand même négocier entre le débat sur l'évolution et le créationnisme? Est-ce que les homosexuels peuvent être pasteurs? Vous croyez que c'est ça que le monde il a besoin d'entendre? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Le monde va vers la colère et je me mets avec. Et les églises du monde entier ont des débats sur la théologie libérale. Le monde a besoin d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Le monde a besoin d'entendre le message de la croix. Vous entendez, mes frères et sœurs? Voilà ce que vous avez besoin. Si vous n'êtes pas baptisé par immersion et que vous n'ayez pas encore donné votre Seigneur, votre cœur à Jésus, vous n'avez pas besoin de savoir si le monde il a été créé en un jour ou en des jours de 24 heures ou en des jours de milliers d'années. Ce n'est pas intéressant, ça. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous devez vous repentir parce que Jésus est mort sur le bois de la croix pour le pardon de vos péchés et que si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Voilà, je le dis un peu abrupt. Voilà, c'est ma petite réunion d'évangélisation dans ma réunion d'édification. Mais je ne suis pas un évangéliste. Nous devons proclamer la vérité. Nous devons dire la vérité. Et nous devons être honnêtes avec Dieu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Jonas a commencé par cette honnêteté. Il a commencé par une confession. Il a dit la vérité. Il a dit qu'il fuyait Dieu. C'est pour ça que Jonas est quelqu'un de bien quand même. C'est bien d'être honnête et de pouvoir dire, ça va pas, je fuis Dieu. Il leur avait dit, vous avez vu au verset 10, ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il a été honnête. Mes frères et sœurs, si nous voulons que quelque chose se passe, que quelque chose change, que Dieu ait compassion des Toulousains et de nous, si nous voulons y goûter à cette compassion, parce que c'est bien joli de parler de compassion, mais c'est quand même autre chose d'y goûter. Eh bien, nous devons commencer par être honnêtes et de dire, oui, moi aussi, je fuis. Peut-être que vous ne fuyez pas. Il y a plein de gens qui fuient. Ils changent d'église. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer d'église. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en vérité, ils fuient. Ils ne veulent pas obéir. Ils trouvent toujours la petite bête. Il faut bâtir l'église, mes frères et sœurs. Il faut travailler jusqu'à la fin. Parce que Jésus terminera la construction de l'église, croyez-moi. Avec nous ou sans nous, mais Jésus terminera la construction de l'église, croyez-moi. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Ces marins, ils ont entendu la confession de Jonas. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où tu en es, où j'en suis. Enfin, je ne sais pas savoir où j'en suis, mais je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce qu'on peut commencer ou terminer ce culte en disant « je vais être honnête moi aussi » Même s'il me fallait le dire à des païens. Oui, je fuis. Oui, je suis paresseux. Peut-être ça fait du bien de le dire à quelqu'un aussi. Peut-être d'aller voir un frère et de lui dire « tu sais, prie pour moi, parce que je désobéis. » Prie avec moi, est-ce qu'on peut le faire ça dans une église? Est-ce que vous avez confiance en quelqu'un? Est-ce que vous pourriez aller voir quelqu'un et dire, écoute, prie avec moi parce que vraiment ça ne va pas? Cette honnêteté, vous voyez, on peut se dire, tiens, pourquoi Dieu a choisi Jonas? Moi, je n'aurais pas choisi un petit peu comme ça. Franchement, ce n'est pas le meilleur pasteur. Eh bien si, parce qu'il a été honnête. Vous avez rappelé la parabole? Et il y a deux serviteurs, il y en a un qui dit, voilà, tu vas aller travailler dans ma vigne. Mais bien sûr, je vais y aller, t'inquiète. Et il n'y va pas. Combien de fois on a dit, mais Seigneur, mais tu m'as parlé, j'ai entendu un témoignage, j'ai entendu un chant pendant la Sainte Cène, une prière, mais tu m'as parlé, Seigneur, tu m'as parlé. Et on n'était pas au bout de la rue, que déjà, consciemment ou inconsciemment, on avait décidé de désobéir. Oui ou non? Et soyons honnêtes, et je crois que Dieu a choisi Jonas, parce que dans son cœur, malgré son combat, malgré sa désobéissance, malgré sa fuite, il y a eu cette honnêteté. Oui, je fuis. Et après, la désobéissance, ça n'amène rien de bon. Parce que vous avez vu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la calmette, pour la tempête? En plus, ils m'ont tiré au sort. Heureusement que Dieu a contrôlé le tirage au sort. Et quoi, si t'es trompé? Paf, c'était un autre. Bon, ils se seraient rendu compte qu'ils se sont trompés. Dieu contrôle tout. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Ben, jetez-moi à la mer. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quelque chose de très simple. C'est que quand on désobéit, on finit toujours par être découragé. Et on finit par être désespéré. La désobéissance, ça ne génère pas de l'assurance. Parce qu'il aurait pu dire, écoutez-moi, c'est pas compliqué. Faites demi-tour. Retournons à Jaffa. Et c'est bon. Est-ce que la tempête se serait calmée? Ben oui, de suite. Franchement, si Jonas avait dit, écoutez-moi, allez, bon, c'est pas la peine, ne vous inquiétez pas. Faites demi-tour. Je suis sûr que instantanément, la tempête se serait arrêtée. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est obligé, parce qu'il revenait là où Dieu voulait. Alors bien sûr, heureusement que Dieu est souverain. Mais moi, ça me rassure, ça. Parce que Dieu n'a pas dit, on va le jeter à l'eau. Et s'il y avait que des petits poissons comme ça, à côté, vous savez, des petits poissons rouges comme ça, il y aurait eu un problème. Heureusement que Dieu, dans sa puissance, dans sa souveraineté, il avait prévu le fourgon qu'il fallait. Oui ou non? On peut dire alléluia. Est-ce que Dieu savait que ça allait se tourner comme ça? Oui, et Dieu a amené ce grand poisson là tout près, je pense qu'il ne lui a pas cassé une cheville ni rien. Béni soit le Seigneur. Oui, Dieu a compassion des Ninivites, mais Dieu a compassion de son serviteur. C'est bien de savoir que Dieu aime les pécheurs, mais il ne faut pas oublier que Dieu nous aime aussi. Et qu'il a compassion de nous. Et que même si on s'est loupé, si on a fui, si on a désobéi, au moins commençons par être honnêtes. Il aurait dû dire, ramenez-moi. Mais il fuyait, il était découragé. Mes frères et sœurs, le diable, il sait que la désobéissance, il le sait. La désobéissance, ça va générer le cafard. Le cafard, ça va vous décourager. Et le découragement, ça va mener le désespoir. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce texte. Par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Parce que mes frères et sœurs, dans ce monde dans lequel on est, moi je vous dis que si on n'a pas de consolation, de patience et d'espérance, je ne suis pas sûr qu'on tiendra jusqu'au bout. Et le Seigneur, il le sait. Et il y en a un autre qui le sait. Alors les marins sont saisis d'une grande angoisse, ils le font, ils le jettent à la mer, et voilà que Dieu intervient miraculeusement, et dans le poisson, il va prier. Alléluia, il connaissait les psaumes. Hein. Il connaissait les psaumes, j'ai regardé bien, hier c'est Jérémie, les Lamentations, il connaît. Il connaît Esaïe, il connaît bien. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible que... Il connaît, enfin, il va prier, et le Seigneur, il va parler au poisson, et il ne va pas l'envoyer à Chypre, vous voyez? Comment Dieu est bon? Je suis sûr qu'il l'a mené au plus près de Ninive. Vous regarderez sur la carte. Moi, je bénis Dieu pour sa bonté. Mais enfin, ça ne devait pas être marrant quand même. Le bureau dans lequel il priait. Lui, il pensait que tout était fini. On peut penser que c'est fini des fois. J'en ai marre. Vous l'avez déjà dit, ça? Qui l'a jamais dit? Qui a jamais dit, j'en ai marre? Je vous avais raconté une fois que quand quelqu'un disait ça avant, quand j'étais jeune pasteur, vous savez, quand on connaît tout, quand on est bien, quand on sait tout par cœur. Quand un chrétien disait « j'en ai marre », j'avais une petite pensée négative. Je disais. Et puis quand j'ai été en Polynésie, je devais dire « j'en ai marre » au moins, allez, on ne va pas exagérer quand même, mais au moins 200 fois par jour. C'est dur quand on croit que tout est fini. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a envie de mourir. Moi cette histoire, je l'aime, cette histoire. Parce que ça m'a montré que ça vaut la peine d'apprendre à connaître Dieu. Parce que si Jonas avait connu davantage le Seigneur, ce qui s'est passé après, évidemment, c'est sûr. Mais quand on connaît davantage le Seigneur, il aurait dit, ramenez-moi, Jopé. Allez hop, ramenez-moi. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, demande au Seigneur qu'il te ramène à ta place. Demande-lui. Il ne va pas te juger, mais que son nom soit béni. Il va te ramener. Vous croyez que Dieu peut vous ramener à votre place? Peut-être que votre place, c'est ici, là, dans l'église. Peut-être que votre place, c'est ailleurs pendant un temps. Eh bien, acceptez-le. Mais allez là où Dieu vous demande d'aller. Dites au Seigneur, je veux obéir. J'en ai marre d'être paresseux, d'être découragé, de demander toujours, Seigneur, prends-moi, Seigneur, prends-moi, enlève l'église. Mais écoutez-moi, le Seigneur, il sait quand est-ce qu'il doit enlever l'église. Mais bien sûr que j'aimerais, moi, que Dieu enlève l'église, là, à la fin du culte, même de suite, tiens. Ça vous va que Dieu nous enlève de suite? De suite? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Ben, si vous n'êtes pas prêt, répondez aussi. attendez 20 minutes, 5 minutes ou 10 secondes, le temps de dire pardon. Le temps de dire pardon. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de tranquillité. Alors, c'est pas la peine que. On n'est pas obligé de passer par la même étape. Mais vous savez, il n'y a rien de plus beau que d'aimer la tranquillité, de se retrouver seul, au calme, de méditer sur le caractère de Dieu. Cette histoire, elle est excellente. C'est ce que moi, j'ai fait toute la semaine. J'ai médité cette histoire pour vous la porter. Et c'est ce qui va arriver. Et Dieu va sauver cette ville. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont être sauvés? Toulouse, je crois que c'est la première ville homosexuelle de France. Mais est-ce que Dieu peut sauver des homosexuels, des lesbiennes, des pauvres, des riches? Est-ce que Dieu peut les sauver? Des violents, des sols de Tarse, remplis de meurtres. Est-ce que Dieu peut les sauver? Oui, mais c'est peut-être à nous de prier. Et de dire, Seigneur, il faut que je fasse ce que tu me demandes. Et je le répète, ça doit commencer par l'honnêteté. Et si j'ai péché, je dois être honnête. Seigneur, oui, je suis un paresseux. N'essayez pas de bifurquer en disant, j'ai pas le temps. Moi, parce que quand vous allez passer devant Dieu, vous allez dire, Monsieur Gaud, c'est dommage qu'il ne nous ait pas dit plus sévèrement ou plus sérieusement les conséquences terribles de la paresse. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me feront ce reproche ou qui le feront au pasteur. Parce que quand même, c'est comme ça qu'on réagit. Si vous fuyez, c'est grave. Si vous désobéissez, c'est grave. Si vous faites rien, c'est grave. Mais au moins, ayez la grâce et la joie de faire ce que Dieu te demande. Moi, je ne vois pas Dieu en train de te demander quelque chose qui va t'énerver. Vous croyez que Dieu il va nous demander quelque chose de pénible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi j'ai peur que Dieu me demande de faire quelque chose qui ne me convienne pas? Mais non, si Dieu vous demande quelque chose, ça va vous épanouir. Oui, vous le croyez ça ou non? Eh bien, pourquoi alors vous ne le faites pas? Pourquoi alors vous obéissez pas? Mes frères et sœurs, Dieu nous demande de prier comme Habacuc. Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Est-ce qu'on peut terminer notre culte de cette façon? Vous savez, le malheur, il va s'abattre de plus en plus sur la terre. Ne croyez pas que ça va s'arranger. Le crime, ça va se répandre. Vous avez vu à Toulouse, en 3 semaines, il y a eu 3 crimes en 3 semaines. Et tout ce qu'on ne sait pas. Le crime va, je ne veux pas vous faire peur, Dieu garde ses enfants. Mais le crime va augmenter, la peur va augmenter. Est-ce que les chrétiens peuvent se réveiller et dire oui, être honnête avec les gens? Être honnête avec les gens, ne dites pas à l'église, oui c'est quoi, c'est du social. Non, prends un évangile, lis-le, Jésus est mort sur la croix pour toi. Je ne sais pas, dites-le, mais ne dites pas oui, l'église sert à faire du social. Moi, je me souviens de ces 2 boulangères un jour qui me disaient, Monsieur Gaud, ça sert à quoi un pasteur? Et d'après vous, ah ben ça fait du social, vous faites des visites, vous donnez à manger aux pauvres. Je dis, non, c'est, oui, on le fait. Je dis, mais c'est pas ça. Le jour où vous aurez envie de vous occuper de votre âme, pour pas aller en enfer, venez me voir. Et me regarder. Oui, ça sert à ça, un pasteur. Ça sert à vous aider à ne pas aller en enfer. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs. Obéissons joyeusement. Tiens-toi devant Dieu, je ne sais pas. Tiens-toi devant Dieu. Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller dans le ventre d'un grand poisson. Peut-être que tu as un beau salon confortable. Mais pourquoi cela, dans ton salon confortable, tu ne t'agenouillerais pas ou tu ne t'assoirais pas en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous croyez que Dieu va jouer à cache-cache? Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu va vous le montrer. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa compassion. Prions un instant, s'il vous plaît. Nous le croyons, Seigneur, que ta patience est notre salut, que tes compassions sont grandes. Tu aimes les pasteurs, les serviteurs, les servantes. Tu aimes l'Église. Tu aimes tous les Ninivites de ce pays, tous les perdus. Nous te remercions pour ta grandeur, la façon dont tu as agi dans cette affaire, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour toutes les fois où tu as su intervenir avant que nous aussi nous mourions. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous ne pouvons pas, Seigneur, ne pas te faire confiance. toi, notre Père. Merci pour le calvaire, mais pour tout le reste, Seigneur. Pour tout le reste. Conduis-nous, Seigneur, chacun, à avoir la joie d'être de ces serviteurs et de ces servantes fidèles, utiles, afin que le jour où nous aurons le privilège de passer devant toi, nous n'entendions que cette parole, tout Seigneur, entre bon et fidèle serviteur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi garde-nous et conduis-nous. Conduis-nous avec plein d'amour, comme on l'a chanté tout à l'heure, vers ceux qui se perdent, vers les rétrogrades. Donne-nous des mots intelligents, Seigneur, et de la sagesse, afin de parler comme toi tu aurais parlé à ces âmes. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.